Modèle Sport sur RFI. Olivier Pron.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mondial Sport. Et si on avait un cadeau pour vous? Bah oui, dimanche soir, vous êtes sur RFI et vous allez entendre Sadio Mané, carrément. Rien que lui, le héros de Liverpool, le maître à jouer des lions, celui que beaucoup voient logiquement comme un candidat très sérieux au Ballon d'Or. Mané a répondu aux questions de Babacar Fall à Dakar. Nous allons vous faire écouter quelques extraits de cette interview que vous pourrez suivre en quasi-intégralité. Les meilleures pastilles demain, lundi, dans Radio Foot avec Madame Gasnier. Sinon, dans ce magazine, il sera aussi question de foot en Espagne, sur le continent, avec le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, de vélo Faso, de tennis de table à Abidjan et de tennis à Paris. C'est donc Sadio Mané qui ouvre ce Mondial Sport à un mois quasiment de l'attribution du Ballon d'Or. Ce sera le 2 décembre à Paris, trophée pour lequel il est, pour tous ou presque sur le continent, voire ailleurs, y compris au service des sports de RFI, le favori. Il devrait en tout cas en être ainsi, car qui peut s'asseoir à la table de l'enfant de Sadio et lui dire « j'ai été plus fort que toi cette année ». Soyons clairs, aucun joueur ne peut dire cela aux champions d'Europe avec Liverpool et vice-champion d'Afrique avec les Lions du Sénégal. Sadio, 27 ans, qui continue cet automne son implacable marche en avant, mais qui reste d'une humilité éminemment respectable et étonnante. Vu le milieu, lorsqu'on lui pose la question sur ce Ballon d'Or, enfin quand Babacar Fall, notre correspondant à Dakar, la lui pose, Sadio Mané, enjoué, on l'écoute.
Tous les footballeurs rêvent du Ballon d'Or. Comme je l'ai dit, je ne suis pas une exception et il y a beaucoup de noms qui reviennent. Mais comme je l'ai toujours dit, je laisse les choix aux différents jurys qui vont prendre la décision finale.
Déjà, les distinctions UEFA, les distinctions meilleur joueur FIFA attribuées à d'autres joueurs, vous ne le dites pas, vous ne le montrez pas, mais on imagine votre profonde déception, non?
Déception? Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que ces joueurs qui ont été vraiment énormes, je crois qu'ils ont aussi fait une très belle saison, une saison exceptionnelle. Et comme je l'ai dit, c'est un signal fort pour moi de me donner à fond, que ce soit en entraînement ou sur le terrain, pour que je puisse être choisi un jour.
Avec Liverpool, qu'il a rejoint à l'été 2016, plus gros transfert d'un joueur africain à l'époque, Sadio Mané a inscrit 69 buts en 137 matchs, 9 cette saison, le dernier, hier, qui a offert un précieux succès aux Reds à Aston Villa. De la tête, c'est rare, il mesure 1m75, et à la 94e minute, auparavant, il avait signé la passe décisive de l'égalisation, incontournable, Sadio Mané, qui a évoqué également avec Babacar Fall sa complicité avec ses coéquipiers et le rôle prépondérant dans sa vie de son entraîneur Jürgen Klopp.
Je crois que c'est évident qu'on doit être des complices. Maintenant, nous avons passé presque 3-4 ans, je peux dire. On se connaît bien, donc on s'entraide en se rectifiant tous les jours. Par rapport au coach, j'ai dit qu'il est comme mon papa et donc il intervient même dans ma vie privée. Donc c'est quelque chose qui m'a plu et donc. Il a sa façon de tirer le meilleur de tout en chacun et aussi c'est vraiment un vrai coach en fait.
Y a-t-il plus charmant que Sadio Mané, hein? Je vous le demande, ce gars mérite le Ballon d'Or, c'est tout, c'est dit, vous en voulez encore? Eh bien rendez-vous demain, 15h10, temps universel, dans Radio Foot International. La dame vous en donnera plus sur ses rapports avec Mohamed Salah, l'Égyptien, sur le Ballon d'Or africain, sur la CAN 2021, sur le racisme, ça c'est nettement moins gai. Soyez au rendez-vous, elle compte sur vous, nous comptons sur vous. Football toujours, mais en Espagne. Tiens, là où Sadio Mané aurait pu signer l'été 2018, il a sans doute bien fait de rester chez les Reds. Bref, l'Espagne donc avec un championnat qui cherche leader. C'est en tout cas le sentiment général aujourd'hui où les trois gros, le Real, l'Atlético et Barcelone, n'ont pas gagné ce week-end. Bonsoir Pierre Chaperon.
Bonsoir Olivier.
Alors qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le correspondant de RFI à Madrid, Pierre. Avant de parler des mauvaises affaires du week-end, un match est en cours hein, d'abord chez vous et il concerne le haut du classement puisque Grenade joue face à la Real Sociedad.
Un but partout après 74 minutes de jeu. Porto pour la Real Sociedad a ouvert le score et Vadillo pour Grenade a répliqué. Olivier, en cas de victoire, Grenade pourrait prendre seul la Liga.
Seule la Liga, incroyable quand on pense à ce club que beaucoup méconnaissent. Après 12 journées, la tête de la Liga est dans le flou total, hein, on l'a dit. Ouverte comme jamais, cette Liga. Commençons par le plus inquiétant, ça va plaire au Réfé, on le salue au passage. Le FC Barcelone, qui a chuté en moins de 7 minutes hier du côté de Levante.
À quoi jouez-vous? C'est ce que se demande ce matin Sport, le quotidien catalan. Troisième défaite de la saison en Liga. Déjà, c'est une première au bout de 12 journées depuis 17 ans. Si le Barça a ouvert la marque en première mi-temps grâce à Messi, Levante a gagné la rencontre en seconde période. 3 buts en 7 minutes, défaite 3-1. La presse et les supporters du Barça, fous furieux, reprochent aux joueurs le manque d'intensité et d'implication. Pour Mundo Deportivo, c'est un Barça désastreux qui a ouvert 3 points à son adversaire. De son côté, Sergio Busquets avait du mal à comprendre le scénario du match. On l'écoute.
Nous avions fait le plus difficile en ouvrant le score. En deuxième mi-temps, ils ont repris le dessus. Ça nous a fait mal. Il y a eu ces deux buts, coup sur coup, et puis c'est devenu impossible. Nous avons un chemin à suivre. Nous étions sur une bonne série. Ce n'est pas notre meilleur match, oui, mais je crois que le résultat est un peu exagéré.
Luis Suarez qui s'est blessé hier durant la partie, blessure à la jambe droite. Certains médias locaux évoquent une absence de 3 semaines.
Le Barça qui chute, Pierre, c'était l'occasion pour le Real Madrid de passer devant. Ben non, un 0-0 tout cracra hein, à domicile contre le Betis Séville.
Exactement, occasion ratée pour le Real. Beaucoup de questions après cette rencontre. L'autre jour dans Radio Foot, on disait que Zidane avait trouvé son équipe type. Et bah pourquoi il l'a pas utilisé hier? Je veux dire par là pourquoi Modric, par exemple, a été préféré à Valverde? Pourquoi Vinicius est entré à la place d'un très bon Rodrigo alors que l'attaquant serbe Luka Jovic pouvait peut-être apporter quelque chose de différent? Zidane dit qu'il n'a pas voulu changer de système. Un peu léger à mon sens hein, comme explication. Globalement, contre la plus mauvaise défense du championnat, ne pas marquer. Bah, ça fait un peu tâche, mais c'est une image de sérénité qu'ont voulu montrer les Madrilènes après la rencontre. Pour Thibaut Courtois, qui signe son 3e match sans encaisser de but, la rencontre a été décevante, oui, mais bah, le ballon a été aussi capricieux.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'était un match qu'on devait gagner. Je crois qu'on avait bien commencé. Je crois qu'après, on a essayé, on a eu des occasions. Et je crois que c'est juste le ballon qui ne voulait pas rentrer aujourd'hui. Non, moi, je me sens bien, mais même quand j'encaissais des buts, je me sentais bien aussi. Naturellement, c'est moins agréable. Moi, je continue cette ligne de jouer bien, d'entraîner bien. Et après, j'espère que ça continue comme ça. Mais aujourd'hui, j'aurais préféré encaisser 2-3 buts, mais gagner 4-3 ou 3-2. Mais avec 0-0 défensivement, on ne peut pas se plaindre. C'est 3 matchs affilés avec un clean sheet. Donc, ok, ça, c'est bien maintenant. J'espère que mercredi en fasse encore un cliché, mais on met quelques buts.
Barcelone et le Real à égalité de points ce soir. Le Real qui affrontera mercredi Galatasaray. Le Barça, ça sera mardi contre le Slavia Prague. Je parle bien entendu de la Ligue des Champions.
Autre équipe de Madrid, Pierre, autre match nul, celui de l'Atlético sur le terrain du FC Séville. Mais là, il y avait du beau jeu et même de la polémique. Un cocktail adoré chez vous en Espagne.
Sûrement le match le plus agréable depuis le début de la saison. Un but partout, un but pour chaque mi-temps, pas de jaloux. Un Atlético dépassé en première mi-temps et qui s'est bien repris grâce à l'entrée notamment de Diego Costa en deuxième période. Diego Costa qui a raté un pénalty. Et c'est là la polémique majeure de cette rencontre. Il y en a eu beaucoup. La faute sur Koke semble se dérouler à l'extérieur de la surface, mais l'arbitre et la VAR disent le contraire. Diego Costa tire en force à gauche et échoue. Match nul. Un mot, Olivier, de Thomas Partey, le Ghanéen. Encore encensé ce matin par la presse. Marc a dit qu'il a été le meilleur joueur au milieu au début des actions de contre. Il est le créateur des occasions d'attaque, peut-on lire, tandis que pour As, il est une référence quand il faut aller de l'avant. Bref, Partey est un élément clé de l'Atlético. L'Atlético qui se rendra à Leverkusen, ça sera mercredi en Ligue des Champions, et l'Atlético qui est à un point du Barça et du Real.
Et pendant que vous nous parliez, le score n'a pas évolué entre Grenade et la Real Sociedad. Toujours un partout et toujours Grenade 3e. Merci Pierre Chaperon, on vous libère.
Mais à bientôt.
Rapidement les autres résultats marquants du jour. En Angleterre, Leicester, vainqueur 2-0 à Crystal Palace, sort du podium. Chelsea, les Foxes, sont 3e à égalité avec les Blues à 6 longueurs devant Arsenal, 6 longueurs devant Arsenal, le 5e à 8 de Liverpool, le leader. À noter en Angleterre la blessure terrible hein, du joueur d'Everton, André Gomez. Le milieu portugais s'est brisé la jambe à la suite d'un tacle du sud-coréen de Tottenham, Heung-min Son. Allez voir l'image si vous avez le cœur bien accroché, parce que franchement, ça fait peur. En Italie, Milan AC Lazio. C'est en ce moment la Lazio dans le temps additionnel mène 2-1 et préserve sa 5e place au classement. Et puis en Ligue 1, Bordeaux a dominé Nantes 2-0 pour remonter à la 6e place à 2 points d'Angers. deuxième et au même niveau que Reims, battu à Nice sur le même score. Actuellement, Saint-Étienne-Monaco, les Stéphanois mènent 1-0 grâce à un but du Gabonais Denis Bouanga. C'était à la 58e minute. Il reste 12-13 minutes à jouer. Saint-Etienne pourrait se retrouver 6e au classement en cas de succès. Et puis sachez que, comme on pouvait le supposer, après la raclée subie hier à Francfort, défaite 5-1, la pire depuis 10 ans du club bavarois, le technicien croate Niko Kovac a été limogé cet après-midi par le Bayern Munich. Il était en poste depuis l'été 2018. Le foot en Afrique. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Olivier.
On connaît ce soir 15 des 16 qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération.
Et le 16e sera connu mardi à l'issue du match retour entre le SAE du Bénin et Génération Foot du Sénégal. En attendant, ce qu'il faut retenir, c'est que les favoris ont tenu leur rang, à l'image de la renaissance de Berkane, vainqueur de Fossa Juniors de Madagascar 5-0. La défaite 2-0 de la semaine dernière est donc largement effacée. Le Oroya de Conakry, vainqueur 4-2 de Bandari à l'aller, a conclu en gagnant encore une fois 1-0 au Kenya. Et puis ça passe aussi pour Motema Pembe face à un autre adversaire kenyan, Gor Mahia, 1 partout là-bas au Kenya. Et puis 2-1 en RDC, le Daring Club a eu chaud en étant même mené au début de ce match retour, mais à l'arrivée c'est un Isaac Ngata soulagé qui s'est présenté au micro de Kaboulo Mwana Kaboulo.
On avait un objectif, c'était de bien figurer dans la Coupe africaine. Maintenant, le projet est toujours de cours, donc on va aller profiter de nos instants comme toujours. On va travailler, il y a le championnat qui est aussi important. On va mettre les joueurs au repos parce que psychologiquement, physiquement, c'était très difficile. Et là, vous avez vu qu'on a eu du répondant. Donc aujourd'hui, comment j'entrevois l'avenir de la Coupe africaine, j'attends qu'on soit dans un groupe et on fera les plans pour essayer, comme toujours, de gagner nos matchs et arriver en quart de finale.
L'entraîneur de Motema Pembe, Isaac Ngata, soulagé, et Georges Kouadio, libéré. Son club, le Djoliba, disputera lui aussi la phase de groupe.
Une première dans l'histoire du Djoliba, qualification avec la manière de la formation malienne, 4-0 aux dépens d'Elect Sport, un club tchadien repêché de Ligue des Champions. Les félicitations de l'entraîneur pour ses joueurs, c'est au micro de Mahamadou Kaloga.
Ils ont joué sans relâche, ils ont joué pour ne pas prendre de but et de pouvoir en marquer. C'était pas facile, mais c'est ce qu'ils ont pu faire. Je dois les féliciter et dois féliciter aussi les dirigeants qui ont mis tous les moyens pour que nous puissions arriver à cette étape et remercier les supporters qui sont sortis nombreux comme un seul homme pour être le 12e homme, pour apporter ce qu'il fallait à cette équipe. Maintenant, laissez-nous savourer cette victoire et puis préparer l'avenir. Je ne suis pas un devin. On va travailler et puis nous allons voir ce que demain va nous donner.
Georges Kouadio, le toujours très expressif entraîneur ivoirien du Djoliba de Bamako.
Ouais, mais bien sympa. Autre petit exploit, celui réalisé par un club ivoirien, justement San Pedro.
Sortir la chantilly de Kotoko, ça n'est pas rien, encore moins après un match aller perdu 1-0 au Ghana. Très beau coup donc réussi par les hommes de Jani Tarek, vainqueur de la deuxième manche 2-0. Eux aussi vont découvrir la phase de poule et c'est une grande satisfaction pour leur entraîneur tunisien.
C'est une première pour nous. L'équipe en 2015 était en D2. Aujourd'hui, on voit l'équipe dans la phase des poules. Et c'est pas au hasard qu'on est arrivé à ce stade. Il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits. Le tirage au sort le 10, dimanche prochain. J'espère bien que le tirage au sort nommé avec des équipes à notre niveau. Et même si il est nommé avec des grandes équipes, il n'y a pas de problème. On est là pour apprendre. Et on est là quand il y a l'envie, il y a le courage avec les joueurs. Il n'y a rien qui n'est impossible. On peut faire une bonne phase de poule.
Jani Tarek avec Emmanuel Kofi.
Dans les autres matchs, déception pour l'AS Kara.
Le club togolais vainqueur 2-1 de son match aller contre Enugu, mais battu 1-0 au Nigeria et donc éliminé par la règle des buts à l'extérieur. A signalé enfin pêle-mêle les qualifications de Nouadhibou, le club mauritanien, et des deux représentants égyptiens, El Masri aux dépens des Seychellois de Côte d'Or et Pyramide FC, tombeur des Young Africans.
Hop hop hop, le foot c'est fini, mais c'était quand même bien et long et complet. Les derniers coup de pédale du Tour du Faso. À présent, on passe au vélo. La 32e édition s'est achevée aujourd'hui et le vainqueur final est pour la première fois angolais, dites donc.
Mais oui, Manuel Antonio Dario, 26 ans, maillot jaune depuis la 7e étape et l'échappée royale qui s'était formée sur la route de Bobo Dioulasso. Son dauphin Bruno Arojo est lui aussi angolais. Et c'est un Suisse, Jonas Deuring, qui complète le podium final. Podium dont sont absents. C'est une première là aussi depuis 2009. Les coureurs burkinabé, les étalons quand même, rassurez-vous, qui se consolent avec 3 victoires d'étape grâce à Mathias Sorgho le deuxième jour et au jeune Bachirou Nikita Mokiema. On en parlait hier puisqu'il avait gagné à Ouagadougou. Il a remis ça aujourd'hui dans les rues de la capitale. Le bilan complet de ce 32e tour du Faso avec Gabriel Barois.
Organisé dans un contexte sécuritaire particulier, le Tour du Faso a bénéficié de l'apport considérable des forces de défense et de sécurité. La compétition s'est déroulée sans le moindre incident et aura pleinement rempli son office. Le Burkina Faso peut ainsi en tirer une légitime fierté à écouter le président de la Fédération burkinabé de cyclisme, Yassine Manegré Sawadougou.
Le premier défi pour nous, c'était le défi de l'organisation, que cette 32e édition se tienne. Cela nous a permis en tout cas au monde entier que le Burkina Faso continue de vivre, le Burkina Faso continue ses activités. Même sur le plan résultat, nous avons décroché le deuxième maillot le plus convoité avec Nikema Bachirou et nous avons décroché aussi le maillot d'Espin d'Intervédia avec Kone Souleymane. Donc cela donc justifie notre satisfaction.
Annoncé comme l'un des favoris de la compétition dans un plateau sportif qui faisait rêver, l'Angola a confirmé son niveau continental en contrôlant la course devant de grosses pointures comme le Rwanda, la Suisse, l'Allemagne et autres Algérie qui ont élevé le niveau des débats. Les étalons cyclistes qui convoitaient le maillot jaune pour donner une suite au succès 2018 de Mathias Sorgho ont subi la loi de l'Angolais Manuel Antonio Dario qui a ravi tout simplement le maillot jaune. Mais le Burkina Faso a mis un point d'honneur à remporter la dernière étape à Ouagadougou par Bachirou Nikema, toute une symbolique. Laurent Bezo, le directeur de course, nous fait ses observations.
On savait avant le départ, sur le papier, que les Angolais, les Rwandais, les équipes européennes allaient marquer de leur empreinte cette 32e édition. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Sur le terrain, on l'a vu, ces équipes étaient toujours aux avant-postes. On a eu des belles étapes, avec des moyens très relevés. C'est la première fois, je pense qu'il faudrait regarder un peu de plus près, mais je pense que c'est la première fois où le Tour du Faso s'est déroulé à une telle vitesse. On a vraiment eu de belles étapes, différentes victoires d'étapes. Et puis, concernant les Burkinabés, ils n'ont surtout pas démérité. Maillot vert pour Bachirou Nikema, qui confirme un peu ce que l'on pense de ce jeune coureur. Le maillot des sprints intermédiaires pour Kone, une quatrième place au classement général par équipe. Voilà, le bilan il est positif. Peut-être il faudra, en ce qui concerne les Burkinabés, rediscuter sur la stratégie choisie lors de l'étape des Dougou Bobo. Peut-être que les Burkinabés ont perdu le tour là. Mais en tout cas, ça n'enlève rien à la performance des Angolais. Dario, le coureur vainqueur de la 32e édition, Arojo, son second, le Suisse Doering, en troisième position. Voilà. Bon, dans l'ensemble, on a eu, pour moi, un très beau tour du Faso.
La Suisse qui s'est retrouvée sur le podium aux côtés des Angolais, grâce à son meilleur coureur Jonas Doering, troisième au classement général, justifie pleinement sa présence au 32e tour du Faso. On écoute le directeur sportif Jean-Jacques Loup.
L'histoire, elle devrait retenir, outre le vainqueur de ce tour, elle retiendra le podium avec un Européen à la troisième place. Et je crois que c'est la première fois qu'un Suisse est sur le podium en 32 éditions du Tour du Burkina Faso. Donc, bilan très très positif pour nous.
On attendait mieux des Ivoiriens. Ils ont été en dessous de leurs ambitions. Gabriel Barois, Ouagadougou, RFI.
Tennis dans Mondial Sport. Novak Djokovic, roi de Bercy, le Serbe, a remporté cet après-midi le Masters 1000 parisien pour la cinquième fois de sa carrière. En finale, il n'a pas tremblé, mais alors pas du tout, hein, face à la surprise du tournoi, le Canadien Denis Shapovalov. Eric Mamrut, bonsoir. Pas le moindre suspense hein, ce dimanche.
Effectivement, bonsoir Olivier, le public est resté sur sa faim. L'an passé, il avait eu droit à un très bon match avec en prime une surprise à la clé, le triomphe du challenger russe Karen Khachanov face à Novak Djokovic justement. Cette fois-ci, le jeune n'a pas eu raison du maître serbe. Denis Shapovalov n'a jamais vraiment réussi à entrer dans cette partie, à l'image de son premier jeu de service, perdu facilement. La faute à une grande nervosité, lui qui disputait la toute première finale de Masters 1000 de sa carrière. Pour Novak Djokovic, en revanche, c'était quasiment la routine avec une 50e finale dans ces prestigieux tournois des Masters 1000. Il s'est montré chirurgical tout au long de la partie, notamment au service avec un très bon pourcentage de première balle. Denis Shapovalov, en fait, ne s'est procuré qu'une seule balle de break aujourd'hui en finale, effacée sans problème par le numéro 1 mondial qui s'est imposé tout en maîtrise, tranquillement. Le score 6-3, 6-4 en 1h06, c'est la finale la plus rapide de l'histoire ici à Bercy. Cinquième trophée dans cette salle pour Novak Djokovic. Il améliore son record à Paris. Le Serbe ravi de sa performance et de ce 34e Masters 1000 empocher Novak Djokovic. Je pense que ça a été mon meilleur match de la semaine au niveau du service. C'est la raison pour laquelle ce match a été aussi rapide, juste une heure pour deux sets. J'ai très bien débuté, de manière très solide. Au deuxième set, j'ai attendu que son pourcentage de première balle baisse. Je lui ai mis la pression sur ses secondes balles. J'ai été solide du fond de court pour ne pas lui laisser trop d'opportunités et cela a fonctionné. C'est l'un des meilleurs matchs que j'ai pu jouer cette semaine. La deuxième partie de mon tournoi a été fantastique. Je me suis amélioré jour après jour, je ne peux être plus heureux après cette victoire. C'est un grand privilège de gagner autant de grands titres. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles je continue de jouer. C'est pour soulever de grands trophées et être en mesure de jouer au plus haut niveau.
77e
trophée en carrière soulevé par Novak Djokovic. C'est loin des 102 de Federer, mais bon, c'est quand même pas mal.
Ah oui, Novak Djokovic qui pourtant avait bien mal entamé sa semaine, hein, on s'en souvient.
La faute à un gros rhume qui lui avait pratiquement enlevé toute sa voix et une grande partie de sa maîtrise de numéro 1 mondial. Mais finalement, quelques jours plus tard, Djokovic parvient à soulever le trophée sans avoir perdu le moindre set en 5 matchs. Il dissipe ainsi les quelques doutes qui régnaient sur lui depuis l'US Open et son abandon suite à une blessure à l'épaule. Écoutez l'analyse de l'ancien joueur français Paul-Henri Mathieu.
Il est monté crescendo, hein. C'est son match le plus difficile, ça a été lors de ce premier tour face à Corentin Moutet. Et ensuite, effectivement, le rhume s'est atténué tout au long de la semaine. Il a joué de mieux en mieux, avec en point d'orgue, je pense, c'est vraiment cette demi-finale face à Dimitrov, où il a été extrêmement solide et encore aujourd'hui en finale, où il a serré le jeu comme il fallait.
La maîtrise de Djokovic en cette fin de saison, hein. On l'avait vu balbutier un petit peu à Shanghai, par là, mais là...
Ouais, il y avait un petit peu d'incertitude aussi avec sa douleur à l'épaule ou au coude. On ne savait pas s'il allait rejouer. Finalement, il rejoue à Tokyo. Il gagne Tokyo. À Shanghai, il perd. On ne savait pas trop comment il était. Là, il perd sa place de numéro 1 mondial demain. Mais il a de bonnes chances aussi de la récupérer si jamais maintenant Rafa est amené à déclarer forfait pour le Masters. Donc, ça va dépendre du CERM. S'il gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de saison, bah, c'est lui qui finira numéro 1. Donc, il s'est remis dans la course. Surtout en termes de niveau de jeu, bah, il est à nouveau là où il était il y a quelques saisons.
La place de numéro 1 mondial à la fin de la saison, c'est désormais l'objectif principal de Novak Djokovic et de Rafael Nadal. Si l'Espagnol parvient à être sur pied et à participer à partir de dimanche prochain au Masters de Londres. Nadal qui s'est blessé hier aux abdominaux. S'il participe, ce sera la foire d'empoigne entre les deux hommes pour ce titre prestigieux de champion du monde de l'année.
Merci Eric Mamrut, à très vite sur RFI, notamment dans 15 jours après le Masters à Madrid pour la Coupe Davis, nouvelle formule. Et on rappelle que la paire française Mahut Herbert a remporté ce tournoi de Bercy en double. Du tennis encore, mais petit format, Thomas de Saint-Léger est sur table, autrement dit du ping-pong, du tennis de table. Les meilleurs joueurs et joueuses ouest-africains s'affrontaient à Abidjan ce week-end.
Pour la première compétition régionale du genre, objectif décrocher une place pour le top 16, un tournoi qualificatif pour les JO 2020 de Tokyo. Deux précieux sésames étaient distribués. Un chez les hommes, un chez les dames. Reportage de Yoann Gourlet.
Les échanges sont impressionnants, les joueuses se rendent coup pour coup. Dans la salle polyvalente d'Abidjan, les Nigérianes Fatima Bello et Esther Oribamizé tiennent leur rang et se disputent la médaille d'or régionale. Et c'est finalement la première qui l'emporte sans fanfaronner.
Je suis vraiment très contente d'avoir gagné. Ce n'était pas si simple, on se connaît bien avec Esther et c'est toujours difficile contre elle. On vient d'un pays qui aime ce sport, on est toujours très soutenus.
Ce week-end, les meilleurs pongistes ouest-africains, 11 nationalités au total, s'affrontaient dans un seul but, la première place qualificative pour l'ultime compétition avant les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Chez les hommes, la victoire est nette et sans bavure. Devant une petite centaine de personnes, l'Ivoirien Kizito Oba remporte la finale 4 manches à 0 contre le Béninois Mondaï Olabihi, pourtant favori de la compétition. Une revanche sur un adversaire qu'il avait battu en cadet et une qualification presque inattendue dans le top 16 africain.
Bah, je suis très ému et je suis très content parce que quand même c'est un grand tournoi. Je suis qualifié pour le top 16 africain et je suis très heureux. Je vais essayer de bien me préparer pour aller à cette compétition.
Comment vous vous situez par rapport à tous ces joueurs là ?
Bon, il y a tellement de bons joueurs là-bas et peut-être je pars en tant que le 16e joueur. Donc il n'y a peut-être pas grand-chose à faire là-bas mais... Avec toutes ces capacités que j'ai, je vais essayer de travailler pour pouvoir tenir tête.
Les meilleurs de la sous-région sont de loin les Nigérians, mais l'Ivoirien tête de série numéro 3 a su créer une petite surprise. Professionnel depuis peu dans le club français de Noisy-le-Grand, il n'aurait pas pu atteindre un tel niveau en restant au pays, selon Ali Kanaté, pongiste et organisateur de l'événement.
Le tennis de table, les gens ne le savent pas vraiment, mais c'est un sport qui est très très complexe. Et donc, une raquette, une table, ça ne suffit pas forcément. Il faut l'entraînement, il faut des entraîneurs, il faut un encadrement, il faut de tout. Voilà, donc je pense qu'en Côte d'Ivoire, pour l'instant, on n'a pas encore tout ça.
La Fédération ivoirienne de ping-pong ne compte en effet que 800 licenciés et un budget annuel d'à peine 15 millions de francs CFA, soit 22 500 euros. Mais elle peut compter sur quelques mécènes comme Joachim Diaison. L'ancien vice-champion jeune de Côte d'Ivoire est aujourd'hui directeur d'une banque anglaise et promeut sur fonds privés la démocratisation du tennis de table avec un slogan simple.
Une famille, une table. Une école, une table. Un lycée, une table. Et une entreprise, une table. Parce que nous pensons qu'il y a des potentialités au niveau donc du ping-pong. Et aujourd'hui, il est à l'état artisanal. Et nous pensons qu'il y a du monde, nous pouvons aller vers la population. Et nous pensons qu'avec les étudiants, les élèves, nous pouvons développer donc ce sport en Côte d'Ivoire.
Fin janvier, en Tunisie, seulement 2 tickets permettront d'aller à Tokyo. Kizito Oba rêve de devenir le premier Ivoirien olympien. Une performance qui permettrait sans doute à ce sport mineur de rebondir. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Et le tennis de table, c'est bien un sport majeur et très sympa. Allez, direction Tokyo, à 9 mois des JO. Vendredi, le comité olympique a imposé la délocalisation à l'autre bout du pays des épreuves de marathon et de marche. Elles auront lieu dans la ville de Sapporo, dans l'extrême nord, qui bénéficie d'un climat moins caniculaire que Tokyo en été. Cette décision fait suite aux récents mondiaux d'athlétisme à Doha, où énormément de coureurs ont abandonné et de coureuses dans ces épreuves à cause de la chaleur. Un changement de programme qui met en colère les autorités de la capitale à Tokyo, le reportage de Bruno Duval.
Hier, le numéro 2 du CIO, John Coates, a justifié la mesure imposée à la capitale japonaise.
Le président du CIO, Thomas Bach, comprend parfaitement les préoccupations des Tokyoïtes qui préparent ces Jeux avec tant d'enthousiasme et d'efficacité. Mais nous devions prendre une telle décision afin de protéger la santé et le bien-être des athlètes qui sont la priorité du CIO. Nous ne voulions pas non plus que ces Jeux laissent de mauvais souvenirs et que Tokyo reste dans les mémoires pour des images similaires à celles que nous avons vues à Doha.
Yuriko Koike, la gouverneure de Tokyo, a bataillé jusqu'au bout contre cette délocalisation.
Je reste persuadée que les épreuves de marathon et de marche devraient se dérouler à Tokyo. Les arguments du CIO ne m'ont aucunement convaincue, mais c'est lui qui a le pouvoir de décision. Je ne peux donc que m'incliner. Je regrette profondément ce changement qui nous est imposé de manière unilatérale et non concertée. Ces Jeux ne seront une réussite que si nous formons une équipe soudée qui travaille dans un esprit de confiance et de loyauté.
La gouverneure a pensé porter l'affaire en justice, puis elle s'est ravisée. Au grand soulagement de celui qui a joué les casques bleus entre la capitale et le CIO, le président du comité organisateur, l'ex-premier ministre Yoshiro Mori.
Toute cette séquence a été extrêmement pénible. Je rends hommage à Yuriko Koike qui, avec sagesse, a décidé de ne pas la rendre encore plus compliquée.
Le marathon ne se déroulera pas à Tokyo. D'après les sondages, les habitants de la capitale sont très déçus. Mais beaucoup se montrent compréhensifs, comme cette trentenaire qui pratique elle-même la course à pied.
Dans la canicule de Tokyo, avec le taux d'humidité très élevé, les athlètes auraient énormément transpiré et se seraient donc très vite déshydratés.
Le transfert de la course à Sapporo va coûter au minimum 200 millions d'euros, un montant qui reste en travers de la gorge de beaucoup de Japonais.
Vu l'ampleur de sa dette publique, le Japon n'a pas les moyens de jeter comme ça l'argent par les fenêtres. Il devrait être plus économe pour ces Jeux.
200 millions, ce n'est pas rien. Il faudrait tout de même essayer d'éviter au maximum les gaspillages. Cela dit, je peux parfaitement comprendre qu'on se préoccupe de la santé des athlètes.
Des athlètes qui donc, hormis les marathoniens et les marcheurs, devront concourir dans l'étuve tokyoïte. Pour ce médecin, c'est de l'inconscience.
Des Jeux dans de telles conditions climatiques, ce sera une première olympique. Et elle a de quoi inquiéter. Clairement, la santé des athlètes et des spectateurs sera mise en danger.
Car personne n'en doute, dans 9 mois, Tokyo va pulvériser le record olympique de chaleur, 36 degrés, aux Jeux d'Athènes en 2004. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Les Jeux de Tokyo, c'est l'été prochain et Mondial Sport, c'était avec Fabrice Violet à la réalisation.